France Inter.
C'est la bande originale en ce vendredi. Bonjour. Avec Leïla, Gadou Boudedi, Lisa, Ted Moitié, Mabou Jean, Julien Santini,
Alain
qui passe sur Daniel Morin.
Coucou Santini.
Et pour recevoir Monsieur Philippe Besson.
Ouais.
Bonjour
Philippe.
La bande originale, Leïla Kadour et Magui.
Bienvenue Philippe.
Bah oui, c'est ravi parce que c'est comme accueil. Mais... Que...
je vous confirme. Ravi de vous accueillir pour le livre
nouveau.
Annuel.
Le nouveau Besson.
Sans blaguer, c'est combien-tième?
25e.
Mais non.
On ne s'est pas vu.
Vous ne les faites pas.
Non, c'est ça. Oui. Si je l'ai fait. Hélas, maintenant je l'ai fait.
Si je l'ai fait,
ouais. Vous ne les faites pas du tout. Hein.
Chez Julliard, une pension en Italie. Pension justement. Qui est allé en pension autour de cette table? Emma?
Non, pas du tout.
Jamais de pension?
Non, jamais.
Ok.
En prison, oui.
Oui, j'ai un casier judiciaire maintenant.
Nos parents nous aiment, donc non.
Ouais. Lisa ouais.
Non, mais qu'est-ce qu'on entend exactement
par il y a deux choses différentes.
Alors, je parle pension scolaire, pas pension de famille, vacances et compagnie.
Oui, des stages...
C'est en pension, demi-pension, machin, quand on est un peu coincé à l'école, quoi.
Des stages multisport.
Ok.
De plein de sports différents.
Ouais, ce que j'allais dire, c'est là, je suis curieux.
Aucun que je ne maîtrise.
Très bien. Sur quel genre de durée?
Une semaine.
Ah d'accord.
Oui.
Ça va, c'est pas insupportable non plus. Non. Julien, tu as été pensionnaire.
Pensionnaire, ouais.
Moi, on disait pancu quand j'étais gamin. Je sais pas si ça se dit encore.
On dit plan cul maintenant.
Non, pan. Pensionnaire.
Ça peut être les deux.
moi, c'était chez les curés, valait mieux pas.
J'ai vu quelqu'un au portage.
Des élèves, quoi.
Moi, on disait pas ça, mais.
Mais vas-y,
pensionnaire. Moi, c'était le maquis.
Alors parlons-en du maquis.
Non.
Donc non, t'as jamais été pensionnaire, Leïla?
Scolaire, non, mais sport, oui, des camps de basket, par exemple.
Des camps de basket?
Ouais, basket l'après-midi et le matin, découverte sport, spéléo, escalade, équitation. Génial. C'était génial. Bah, t'es pas avec les parents, tu te recrées un quotidien, parce qu'une semaine, ça laisse quand même le temps d'avoir des habitudes. Et puis, il y a une grande autonomie quand t'es un peu jeune, c'est super. Tu te sens un peu libre.
Oldelaf, des souvenirs de pension.
Pas de pension, j'ai juste fait des classes vertes. J'ai fait une classe de géologie à la Bourboule, mais
c'est bien ça.
Et t'as jamais été pionnier, scout ou partir pendant une semaine sous une tente.
Si, ça, j'étais même animateur.
Mais
parce que c'était monnerie. Mais bien sûr, ça on a fait, mais c'était pas des pensions. On partait en camp sous tente et voilà.
En camp sous tente.
Tout à fait. Je vous parlerai dans une autre émission.
Attention, t'en as fait plein. T'en as fait plein d'années.
Ouais, du scoutisme, bien sûr.
Ouais. Non, mais t'étais Géo,
c'est
une forme de sacerdoce.
Scout, moi j'étais pensionnaire et mon frère était pensionnaire parce qu'on était dans la même chambre et on se...
Ouh là là, il faut vite finir la phrase.
Ouais, il faut la finir effectivement.
On ne s'entendait plus vraiment, on va dire, dans une période d'adolescence. Et au point où nos parents, pour nous calmer, nous ont mis pensionnaire.
Ensemble.
Justement pas.
Ah oui.
Il y a quand même les 4 ans d'écart, mais non, c'était le même bahut chez les curés. Et c'était en effet plutôt une punition vous allez apprendre.
C'est une punition. Oui. Quand on dit tu vas aller en pension.
C'est. Ouais.
Oui,
mais en même temps, je suis d'accord avec Leïla, ça a été une expérience incroyable parce que tu vis des trucs, tu vis des secrets, tu partages des moments.
Est-ce que ça a marché
on s'entend beaucoup mieux et on s'aime d'amour aujourd'hui. Évidemment, oui, c'est ça. Et puis surtout, on n'a plus la même chambre. Ça a beaucoup aidé, cette séparation des pioles. La pension dont vous parlez, vous, dans le livre, c'est une pension plutôt de famille, de vacances, plutôt
absolument
qu'une pension scolaire, mais dans laquelle beaucoup de secrets vont se révéler. Avez-vous été pensionnaire à l'école ou scout ou tout ça?
J'ai été pensionnaire en prépa HEC. J'avais 17 ans, j'ai même été mineur émancipé parce qu'il fallait être majeur pour rentrer à la pension, donc je suis allé au tribunal me faire émanciper. Et j'avais 17
première
ans.
Première fois au tribunal alors donc.
Oui, c'est ça, c'était ma première fois. Après, il y a une longue série, mais on ne peut pas parler de tout, mais en tout cas, c'était ma première fois, oui. Et donc, je suis resté un an pensionnaire en prépa HEC, c'était atroce.
Ah bon?
Parce que c'est la prépa qui est atroce.
Non, surtout HEC,
on passe des concours, on est des bêtes à concours, bûcher comme des malades, on commence à 6h le matin, on finit à 2h.
On dort
très peu. On a le bizutage au milieu, c'était atroce.
Oui.
On était dans des
80. Tout ça pour ne pas intégrer ni HEC, ni ESSEC, ni rien.
Faire une école de commerce pourrie de province.
Les SUBDECO, les SKE.
Les SKE à l'époque, absolument.
C'était payant?
Pardon ?
C'était payant ?
Alors, ouais. Là, le pensionnat, non, parce que le lycée de Montaigne où j'étais, non, mais après, les écoles de commerce, oui, c'était payant,
c'était,
bien sûr.
C'est même payant pour passer le concours et te faire humilier.
Absolument.
C'est-à-dire que tu étais obligé de payer à l'époque entre 200 et 300 francs par concours, sauf les subs de code de commerce, où là, c'était un concours général pour toutes les régions pour l'écrit, même pas pour l'oral, mais tu étais obligé de payer pour avoir le droit de te faire humilier.
Et parce qu'on est vraiment humilié.
Ah, oui, vraiment.
On passe et l'idée, c'est de se faire éliminer. Donc, c'est une espèce de sélection, c'est du darwinisme. Donc, c'était assez.
Je connais un endroit à Paris où tu peux payer pour te faire humilier.
Ah oui.
Là, nous sommes plutôt dans la pension de famille et pas dans la pension scolaire. On est dans les secrets même de famille dont on va parler. Sachant que ce sont des secrets, évidemment, nous ferons attention de ne rien spoiler.
On va rien dire du tout.
Surtout. Et de vous donner.
Ah, on ne peut pas dire que.
Non,
on ne peut pas dire sans rien dire. On va parler d'autres spectacles.
On va même pas dire que c'est en Italie.
Non.
Mais c'est chez Julliard. Voici d'abord Hall de la fan de Philippe Besson.
Je suis fan de Philippe Besson, le meilleur écrivain de sa génération. Avant vous, il n'y avait pas un seul Besson sur Terre. Puis vous avez vu Luc, vous lui avez dit « Je suis ton père ». Et vous êtes là pour une pension en Italie. Une histoire de famille, de secrets interdits. On ne résiste pas à l'attraction de ce roman. Un peu comme un trou noir, mais c'est plus troublant. Ouh, 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 ouh. Ouh, 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 ouh. Je suis fan de Besson, j'aime vraiment tout ce qu'il fait. Même si j'ai un peu décroché depuis ce bouet. À l'époque j'aimais déjà la musique, j'étais foufou. J'avais un bandana, un cuir, j'étais un vrai marlou. J'étais tranquille, j'étais peinard. Un peu moins que chez Drucker. Quand cet auteur de chez Julliard a débarqué sur France Inter. Puis il s'est approché de Leila et a regardé Nagui comme ça. L'Italie mon pote, c'est ma botte. J'parie que t'y connais rien à Michel-Ange ou au Titien. Je vais t'apprendre un jeu rigolo. Avant coup de San Pellegrino, Daniel a voulu jouer au con. Moi j'y ai dit, laisse Besson. Il a parlé de Sardaigne, de Parme et de Bologne. On aurait dit une teigne. Moi je voulais pas qu'il me cogne. Je pensais qu'enfin on serait peinard. Terminer les retards, c'est le moment qu'a choisi Tanguy pour lui dire mec, les spaghettis, ça vaudra jamais le coup d'aman. Viens donc par chez moi en Bretagne. Ma mère tient une pension, c'est un crozon. Moi les matis des France Inter, je les passerai plutôt à Quimper. Si t'oubliais un peu le soleil, tes bouquins ne manqueraient plus de sel. Tu serais le Proust de Quiberon. Moi j'y ai dit, laisse Besson. Je suis fan de Philippe et je vous dis merci. Vous êtes vraiment très doué et très 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 chianti. Vous êtes notre invité, vous faites pas de mal. Bienvenue à vous avec
la bande originale. Ouh 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 ouh.
Yeah. Bravo. Bravo Adela. Bravo.
Les Besson, on adore, ouais.
Il a fallu attendre la fin de la semaine, quand même. Enfin bon, Hall de la Fame, après-demain sera à Lille, évidemment, et le 31 à Toulouse, et au Trois Baudets à Paris, le 18 février.
Ah oui.
Histoire d'une pension de famille, histoire qui a peut-être un retentissement dans votre propre vie. C'est toujours l'ambiguïté qu'il y a dans vos romans de savoir quelle est la part de vécu et la part de fiction. Mais il y a une phrase qui résonne encore dans ma tête, celle où vous dites « J'ai toujours admiré les êtres qui ont le courage d'être eux-mêmes ». C'est-à-dire de s'assumer et étaler le propos. Il y a un secret de famille. Dans ce secret de famille, déjà, le fait de garder un secret, c'est de ne pas l'assumer. Si vous pouvez en faire le reproche. Là, pour l'instant, c'est la maman qui est la taiseuse. Je ne sais pas si c'est dans la réalité, mais on va rester accroché au roman.
Au roman, oui.
Garder un secret, c'est de ne pas l'assumer, justement, d'être qui on est.
Oui, c'est en tout cas être déjà tenu encore par la honte ou par le déni ou par la peur que ce secret continue de provoquer des dégâts.
En tout cas, par les résonances que le secret pourrait avoir, parce que tous les secrets ne sont pas honteux.
Non, bien sûr, tous les secrets ne sont pas honteux. Là, en l'occurrence, il est considéré comme tel par la famille, c'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'il s'est passé quelque chose dans cette pension en Italie au cœur des années 60, qui a fait exploser la famille et qui fait qu'à un moment, la mère ou la grand-mère va dire...
On en parle
nous plus. N'en parlerons jamais.
Oui.
Et elle va, c'est comme une sentence qui est posée et tout le monde va observer cette sentence et ça va traverser les décennies et voilà, des années après, le petit-fils va quand même se savoir qu'il y a un trou noir.
Il va se sentir autorisé déjà par la confession.
Et donc il va aller auprès de sa mère, il va dire qu'est-ce qui s'est passé. Elle va refuser de dire les choses, mais elle va lâcher quelques indices et à partir du moment où elle lâche des indices, il va se sentir autorisé à mener sa propre enquête. Parce que, évidemment, et ça ramène au secret, quand vous cherchez à démêler les fils d'un secret de famille, vous cherchez parfois vos origines.
Bien sûr.
Vous cherchez à savoir enquête. D'où vous venez. Oui. Voilà. Et donc le petit-fils qui mène l'enquête dans le livre, c'est celui qui cherche à comprendre d'où il vient.
C'est un thriller, parce que quand on entend les mots enquête, indice, secret, on se dit, ouais, c'est comme si un meurtre avait eu lieu, ça peut être un meurtre, c'est comme si un drame avait eu lieu, ça peut être un drame, non mais c'est ça, c'est une enquête presque policière.
Oui, en tout cas, je voulais qu'il y ait une tension. Je voulais qu'on se dise qu'est-ce qui va arriver maintenant, qu'est-ce qu'il va découvrir, qu'est-ce qui va survenir. Est-ce qu'il va finir par trouver, par exemple, des témoins parce qu'il part à la recherche de témoins en Italie des années après, et il va dire... Et la probabilité qu'il les trouve est assez faible, quand même, parce que les années ont passé. Mais finalement, son chemin va trouver... il va en trouver sur son chemin des témoins, il va pouvoir avoir des bribes de vérité, et il va reconstituer ça, il va comprendre. Et ce que vous évoquiez au début, c'est le prix qu'on paye par fois pour être soi. C'est parce que c'est ça le cœur de ce livre aussi. C'est le courage d'être soi-même et l'idée qu'il a fallu faire des choix sacrificiels à un moment. Quelqu'un des années avant a fait des choix sacrificiels. Il les a fait pour lui, d'abord, parce que c'est un homme qui s'est sans doute mutilé, censuré, etc. Puis ensuite, il a fait d'autres choix qui ont rejailli sur la famille et en même temps, le prix qu'il paye pour être soi, c'est ça.
Avec toujours cette épée de Damoclès, d'être responsable de celui qui anéantit une famille, de celui qui l'a fait exploser, parce qu'il a des codes qui installent une famille dans l'instabilité, ce qui ne fonctionne pas toujours.
Cet homme qui va être à l'origine du secret de famille, en fait, il a un choix extrêmement simple. Enfin, ou
non,
terrible.
Pas simple.
Non, mais terrible, mais simple au sens binaire. C'est-à-dire que soit... il s'en tient à l'ordre établi.
Voilà.
Ouais. Il s'en tient à ce qu'il a décidé à un moment dans sa vie,
ce
qu'il a construit.
De ce qu'on a décidé pour lui un petit peu.
Et
aussi.
De ce qu'on a décidé pour lui. Et comme ça, sa vie reste un long fleuve tranquille.
Trop.
Dans lequel, effectivement, lui a sans doute une peine terrible et dans lequel il se mutile et une souffrance intérieure terrible. Ou alors, il décide de passer, de franchir le Rubicon, et il sait qu'il peut faire exploser une famille, pardon ?
En Italie, oui.
Il sait que ça provoque des dommages collatéraux, mais tout d'un coup, il devient un homme libre.
Est-ce qu'on peut résumer par tous les drames familiaux, les divorces, c'est-à-dire tu penses à la famille ou tu penses à toi ?
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire tu me quittes pour ton bonheur personnel, tu ne penses pas à la famille que l'on a construite ensemble, pense aux enfants, reste à la maison, enfin des injonctions que l'on a entendues, je pense, des milliards.
On aurait pu envisager le chemin intermédiaire.
Voilà, s'il y a un chemin intermédiaire.
Si, on se réalise et pour autant, on obtient la compréhension de la famille, puisque vraisemblablement, il y a quand même eu des étapes dans cette famille qui font dire qu'il a fait preuve de compréhension aussi.
Oui, bien sûr, mais après, l'époque était compliquée. On est aux années 60, c'est un petit peu difficile. Mais en même temps, ça nous ramène à un texte que j'évoque dans le livre, et un livre aussi, un film que j'évoque dans le livre, qui est sur la route de Madison.
Oui, bien sûr.
Tout le monde a vu le film sur la route de Madison. Et la main sur la poignée. De la portière de la voiture, c'est-à-dire que vous venez de la fin.
Vous décrivez exactement la scène en question.
On va la redécrire parce que moi, c'est quelque chose qui m'importe. C'est-à-dire qu'on se souvient, donc elle a vécu 4 jours de passion brûlante, la mère de famille
avec
Francesca, qui est jouée par Meryl Streep, avec l'amant, qui est le photographe joué par Clint Eastwood. Ouais. Et puis, parce que son mari et ses enfants sont partis dans une foire aux bestiaux, et puis le mari est revenu, et le photographe, grosso modo, implore Francesca de la suivre. Et elle est là dans la voiture qui est battue de pluie, et seule, assise à la place du mort.
Avec cette même question qui est,
bien sûr,
est-ce que je pense à moi et à mon envie personnelle, ou est-ce que je garde ce que j'ai construit par code?
Elle a un choix à faire à ce moment-là, c'est soit je reste auprès de mon mari, soit je baisse la poignée de la portière, j'ouvre et je suis photographe.
Je change de voiture.
Et nous, quand on était spectateurs du film, on se disait, mais il faut qu'elle baisse la poignée.
Sors.
Et en même temps, il y a beaucoup de gens qui disent, mais non. Il fallait justement s'en tenir à cette famille qui est une forme d'équilibre, d'harmonie, de soutien. Bon. Donc c'est un choix cornélien, fondamental, intime, qui est posé à cet homme dans ses années 60 en Italie.
Justement, cette image et surtout cette enquête, parce que dès l'instant où il y a une enquête faite sur une personne en disant qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, qu'est-ce qui a impliqué que c'était plus ou moins assumé dans la famille, sa décision de faire exploser la famille, on ne va pas dire comment ni pourquoi, mais de la faire exploser cette famille, implique aussi tous les autres membres de la famille, implique aussi le regard que peuvent avoir les autres, le jugement que les autres donnent.
Ce que le problème, il est là, c'est que ça cause des dégâts considérables, collatéraux. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il y a une femme et des filles, en l'occurrence, puisque on ne l'a pas dit, mais c'est donc cette famille française part en villégiature en Toscane dans l'été 64. Il y a là le père, donc, qui est Paul, qui est professeur d'italien, sa femme Gabi, qui travaille à la poste, et leurs deux filles, qui s'appellent Suzanne et Colette, qui ont 18 et 10 ans.
Et Suzanne, dont l'une
pourrait être la mère de l'auteur.
Par exemple, Suzanne.
Voilà.
Et l'idée, c'est qu'effectivement, donc, ces gens-là partent en vacances et ça doit bien se passer. C'est-à-dire que le père a prévu un programme. Voilà, on va visiter des musées, des églises, voir des peintures.
Très scolaire.
Très scolaire.
C'est moi en Italie.
C'est ça. Ouais. Et donc l'idée, c'est qu'on fait un guide touristique, machin, bon, très bien.
Ce qu'il faut voir.
Voilà, ce qu'il faut voir en Italie. Sachant qu'en même temps, les filles, on est plus intéressées à Suzanne par les garçons qui ont de la gomina dans. Voilà, et bon. Et en même temps, il y a aussi ces gens. Champs-d'Olivier, ces allées de cyprès, ces villages perchés au haut des collines, etc.
Florence, Sienne,
San Gimignano, Renato Impoggio, tout ça, cette Italie qui est pour moi aussi un des personnages fondamentaux
qu'on
du
adore,
livre. J'avais besoin qu'on rentre dans cette atmosphère. Donc ils sont dans cette atmosphère-là et tout doit bien se passer. Et voilà. Sauf qu'à un moment, évidemment, va survenir, on va dire, un incident, quelque chose. Bon. Qui fait que la donne va profondément changer et que, alors ça on peut le dire, puisqu'on le sait quand même relativement rapidement.
Le planning des vacances va être.
Voilà, le planning des vacances va être un peu chamboulé et que Gabi va repartir avec les filles dans la voiture, dans la 404 familiale.
Brusquement, voilà.
Très très brusquement, très très brutalement.
Ouais, enfin c'est pas très rapidement dans le livre non plus, pardon.
Mais assez vite on comprend qu'il y a eu rupture. Il y a eu quelque chose, en tout cas. Il s'est passé quelque chose qui engendre ça. Voilà. Et donc après, c'est comment vous grandissez quand il s'est passé ce choc-là dans votre vie et que vous n'en êtes pas responsable. Je pense aux filles, je pense à Suzanne et à Colette.
Qui ne savent pas pourquoi,
effectivement, on les a mis dans la voiture. Pourquoi on leur a dit, il faut prendre la voiture maintenant.
Voilà. Même si Lénia a eu un indice quand même pendant le voyage.
Oui, et puis parce que... Et même si Suzanne, la fille de 18 ans, la mère du narrateur... Elle a repéré des choses.
Oui. Elle a vu des choses.
Elle a vu effectivement qu'il se passait quelque chose, mais elle n'a pas su trouver la signification.
Oui.
Elle n'a pas compris. C'est ça qui est aussi beau dans l'histoire, c'est que Suzanne, celle qui donne l'histoire à la mère, elle s'en veut presque un peu parce qu'elle se dit j'aurais pu peut-être comprendre, mais elle l'a pas compris.
Elle se retrouve dépositaire d'un secret qu'elle n'a pas compris. C'est ce que je trouve terrible.
Oui,
en fait.
Absolument. Et qu'elle comprend après coup.
Mais c'est-à-dire qu'elle garde toute sa vie quelque chose qu'elle ne comprend pas, avec la consigne de ne jamais en parler.
Peut-être qu'elle s'est interdite de le comprendre aussi.
Non, mais c'est aussi une génération qui se tait, disant...
Sûr. On est dans le silence, on ne peut pas parler de ça.
Ouais. Ben déjà, pour ne pas être jugé par les autres, et pour ne pas encore plus briser la famille.
Oui, c'est ça.
Si ce secret explosait aux yeux et aux oreilles de toute la famille, forcément...
Ça crée de la honte, ça crée du scandale...
Et chacun choisit son camp,
en disant
je suis d'accord ou pas d'accord avec ce qui s'est passé.
Non, faut pas en dire trop, non.
On est bien barré pour rien dire. Chez Julia, le nouveau Besson, ça se passe en Italie, et justement on en parle avec Lisa Delmoitié. Une pension en Italie, vous n'aimez pas l'Italie, vous avez un problème, vous ne seriez pas allé en Italie
pas, non, on l'a dit, c'est une histoire de secret de famille.
Ouais.
Encore une, j'ai envie de dire, existe-t-il une famille qui n'a pas de secret?
C'est vrai.
Et surtout, quel est le secret de ma famille?
Si tu savais.
Mais je ne sais pas, je ne vais pas me le dire.
Suivez un peu.
Non, et un secret, par définition, c'est une information mystérieuse dont personne ne parle. Je ne vais donc pas m'aventurer à révéler le mystère caché dans votre livre, Philippe Besson. Cela me semble être la moindre des courtoisies en vers un invité. Ça nous fout dans la merde aussi. Hein.
Ah oui,
c'est quand même 1h30 l'émission. Parler d'un roman sur un secret sans parler du secret, c'est un peu comme parler de Brigitte Bardot sans parler de ses amitiés avec l'ORN. Quoi. J'ai l'impression qu'on passe un peu à côté d'un point important, quand même, les amis.
Brigitte.
Non vous allez me demander quoi après, Philippe? Parler du Titanic sans parler du bateau? Alors, c'est un couple qui joue des claquettes dans un sous-sol et à un moment, il y a une vieille en robe de chambre avec un collier. Mais c'est parti. Donc, tournons autour du pot. Votre histoire, Philippe, se déroule en Italie. Ça, j'espère que ce n'est pas un spoiler. Ça va?
Ça va.
En même temps, votre livre s'appelle Une pension en Italie.
Donc,
c'est un spoiler. Donc, précisément, on est en Toscane, on l'a dit, et rien que pour ça, vous m'avez. J'adore la Toscane. Vous parlez d'endroits que j'ai adorés, Volterra, San Gimignano, Florence. Je veux dire qu'avec ma famille, moi aussi, j'ai sillonné la région. J'en ai parcouru des kilomètres de spaghettis. C'est incroyable. Moi, je suis italienne du côté de ma mère. À ce stade-ci, je suis 80% eau, 20% ravioli. Je suis farci. C'est le nom de ma sexité, pas du tout. Et vous décrivez bien la beauté de cette région, la chaleur, la sexitude aussi. Hein. Vraiment, si tu veux booster ton estime de toi, va en Italie. Quoi. Les mecs italiens sont tellement charmeurs, ils dragueraient un arbre s'il a des longs cheveux. Quoi. Remonte ton pantalon, Antonio. C'est pas une meuf, c'est un saule pleureur. Mais il y a un trou dans le tronc. Respecte-toi, c'est fini pour cuveur. Moi, j'ai un jour baroudé seule en Italie, en Vespa, d'un agrotourisme à l'autre. Ouais, non, je déconne, j'étais en train et en auberge de Genève. Ne faites pas chier sur les détails, si Philippe écrit une fiction, moi aussi. Non, et en effet, je me suis fait draguer par un Italien au beau milieu de Florence. Mm. Plus cliché, tu meurs. Pour me ramener chez lui, le mec m'a littéralement proposé de me cuisiner de la vraie carbonara. Oh. À croire qu'il savait que la voie vers mon cœur, c'est les lardons. Quelle ne fut donc pas ma déception d'apprendre que dans la vraie recette, c'est pas des lardons, c'est du guanciale. Mm. Bon, le reste de la soirée, je vais pas la raconter par pudeur. Non, mais je déconne,
si, oui, d'accord.
Non, non, c'est juste qu'il n'y a pas grand chose à raconter. Disons que la carbonara, c'est ce qu'ils faisaient de mieux, quoi.
Okay.
Et puis, bon, je sais pas vous, mais l'intimité.
Ah, on est dans le jugement.
L'intimité après un plat de pâtes, quand même. Enfin, moi, je suis pas au top de ma sexitude après 200 grammes de gluten, quoi. Vraiment, tu me vois au lit, j'ai l'air d'un bonhomme dessiné par un enfant, quoi. Juste un gros ventre sur deux cure-dents. Quand même pas terrible. L'Italie, c'est une botte entière de sensualité. À une sensualité pas étrangère au secret de famille central de votre roman. Secret qui ne sera révélé qu'à la fin de la vie de la maman de notre héros. C'est fou comme dans les familles, c'est toujours avant de claquer que les vieux l'ouvrent.
Ouais.
Bon, pour t'en reparler, ta daronne, t'as que deux options. Soit elle est en phase terminale, soit elle est bourrée, quoi. Moi, j'ai d'ailleurs un conseil, mes amis. Lorsque vous soupçonnez l'existence d'un secret gardé par votre père ou votre mère, faites-lui croire qu'il va crever. Il chantera comme un canari, vous saurez quel fiston est un bâtard et dans quel coffre sera l'argenterie. Allez, sur ce... Cette fin un peu glauque. Ne me remerciez pas pour le tuyau. Et bon, moi, je veux vraiment savoir plus sur ce qui se cache dans ma famille. Donc, il va falloir que je fasse croire à mon père, je sais pas, qu'on doit l'amputer des burnes ou un truc comme ça.
Merci. Lisa, c'est moitié.
Oui.
Énorme succès.
Énorme succès. Gigliata Cinquetti.
Ah ouais.
Ça gagne l'Eurovision en 1964, absolument.
Et c'est un peu la BO, parce qu'il y a quelques musiques quand même qui sont distillées dans votre livre, qui est composé de plusieurs livres,
oui,
d'ailleurs,
absolument.
Par zone géographique.
Oui.
Il y a Nice.
Nice
Baie des Anges, ouais,
Nice Baie des Anges.
Il y a des régions et puis il y a aussi ce sentiment, alors cette enquête qui est faite, on le dit, la famille explose, on le sait, c'est une histoire d'amour, alors histoire de tromperie, histoire d'un été, histoire d'une rencontre, d'une deuxième vie qui commence. Il y a cette situation d'urgence que vous qualifiez même de nécessité, le mot est employé, c'est-à-dire avoir sa vie à soi.
Oui, avoir sa vie à soi. Avoir le courage d'avoir sa vie à soi.
Ouais,
oui.
Vous le dites,
oui. Oui, ça pourrait être simplement un coup de foudre ou une histoire
une
de sexe
ou une passade,
une aventure
été,
ou je sais pas quoi. Parce qu'en plus, j'ai tenu à, comme on le disait, à ce que ça soit assez sensuel. C'est un livre quand même qui où il y a pas mal de sensualité, il y a pas mal de désir,
absolument.
En tout cas contenu d'abord, puis exprimé ensuite.
Non, et puis il y a des sens, pardon, pas uniquement autour de la sexualité,
oui,
mais autour du climat,
climat
du
la bouffe,
paysage, de la chaleur,
on sent le poids du soleil,
le poids du soleil,
très épicurien.
D'ailleurs, j'ai voulu que ça soit un roman solaire parce que c'était là pour le coup, je fais une parenthèse, mais nécessaire pour moi. Je sortais de quand même plusieurs romans qui étaient un peu sombres, on va dire.
Oui.
J'avais quand même exploré des thèmes qui n'étaient pas les plus légers au monde, on va dire ça comme ça. Et en fait, moi-même, j'avais en besoin de soleil, j'avais besoin d'été en hiver. Vous voyez, il y avait un côté comme ça. Et je me suis dit, il faut que je raconte cette Italie vibrante, voilà, lumineuse, sensuelle. Et donc, en tout cas, oui, il se passe quelque chose là, et ça aurait pu être simplement une passade. Et à un moment, non, on se rend compte qu'on n'est pas devant une passade, mais devant un choix de vie, devant l'idée de se dire, bah là, maintenant, il faut que je prenne une décision.
Oui, mais pardon, on ne sait pas au moment du... c'est quoi l'expression? Le coup de canif dans le contrat de mariage,
oui.
Voilà, le petit dérapage.
C'est un coup de canif, mais...
Plusieurs fois, ça dure plusieurs jours.
Sauf que l'impétrant ne sait pas, justement, si c'est une passade, si c'est un coup de folie, une soirée qui a mal ou qui a bien tourné, peu importe l'angle, il ne sait pas ce qui est son désir profond, sa substantifique moelle affective en disant est-ce que.
Sa vérité intime.
Est-ce que j'y vais ou pas.
Il commence à avoir des indices là quand même.
Est-ce qu'on le sait réellement qui on est.
Non, mais même peu importe.
Je pense que précisément ce qui se passe, c'est que dans nos vies, il y a des rencontres qui vont nous permettre de comprendre qui on est. Moi, je crois à ça, pas seulement dans ce cas-là, mais moi, j'ai souvent dit ça. Je pense que nos vies, nos parcours de vie, nos destins, ils sont décidés par des rencontres que l'on fait. Pas forcément que des rencontres sensuelles.
Oui, mais qui ne sont pas toujours définitives. Il y a des milliards d'êtres humains et des milliards d'histoires avec « je te quitte parce que je sais vraiment ce que je veux ou ce que j'attends », puis finalement, 2, 4, 10 ans après, je me suis trompé,
j'aurais pas dû, etc.
Voilà.
Oui, absolument.
Tout peut arriver. Il fait lui-même
une enquête sur lui-même. Vous évoquiez plusieurs parties du livre. Oui. Quand on revient à Nice, qui est une période avant Florence, quand il fait sa généalogie, d'une certaine manière, quand il essaie de comprendre lui-même, Paul Virsac, le père, enfin le prof d'italien, d'où il vient, ce qui s'est passé à Nice dans sa tendre enfance, dans son adolescence, quand il marchait le long de la promenade des Anglais avec sa mère, etc., et qui regardait les gens sur la plage, il comprend que les premiers regards à ce moment-là qu'il porte sur cette plage portaient déjà une part de sa vérité.
C'est
ça aussi, c'est comment on reconstitue le fil de sa propre histoire
et
comment on trouve des indices et on se dit peut-être que là il y avait quelque chose et qu'est-ce qu'on en fait après quand on est dans l'âge mûr et dans l'âge responsable.
Avec ce mélange entre l'envie et la culpabilité.
Toujours. Cette culpabilité, elle est terrible, mais elle est liée, d'abord, parfois, à ce qu'on est soi, mais elle est liée aussi à l'époque. Moi, c'est ça aussi que je voulais raconter. C'est qu'on est dans une époque, les années 60, qui, même si elle s'ouvre...
À l'éducation, au regard de la société...
Bien sûr.
Il y a un côté judéo-chrétien, enfin oui, il y a plusieurs...
Même la loi, presque. Il y a une ambivalence formidable, en fait, parce que les années 60, c'est... D'ailleurs, aussi bien en France qu'en Italie, c'est les années de la résurrection, du réveil, de l'ouverture, de l'émancipation. En Italie, c'est les années du miracle économique, des films de Dino Rizzi, de Vittorio De Sica, de Fellini, c'est Sofia Loren, c'est Nonno Letta, etc. Bon, tout ça. Donc, c'est assez charmant, mais en même temps, c'est aussi une chape de plomb.
On est loin avec ce qui se passe aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Parce qu'on sort quand même d'années difficiles. D'ailleurs, l'Italie rentrera après dans d'autres années de plomb, mais il y a ça. Et dans les années 60, c'est aussi les années de l'éveil, d'émancipation, c'est les années de la jeunesse de mes parents quand ils me racontaient ça. Ça faisait vraiment très envie. Bon. Mais en même temps, il y a aussi une espèce de corpus idéologique, des traditions, des lois qui font qu'il y a beaucoup d'interdits, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas le droit de faire. Et surtout, il y a le regard des autres, il y a l'idée qu'il faut s'en tenir à des choses extrêmement traditionnelles, convenues. La religion a une place qu'elle n'a plus aujourd'hui. Et donc, il faut s'en tenir à un ordre établi. Comment on va à l'encontre de l'ordre établi.
Mais cette culpabilité-là, au-delà des périodes de l'éducation, du jugement, et de la religion, même aujourd'hui en 2026, n'importe quelle femme qui décide de changer de vie peut avoir la culpabilité de dire j'anéantis la famille, quitte les enfants, je quitte le mari, et inversement le mari aussi en disant je détruis une famille, parce que cette image de respecter ce que l'on a mis tant d'années à construire,
et qu'on nous a dit qu'il fallait construire aussi, parce qu'on nous a dit que c'était ça aussi, une vie harmonieuse, etc.
J'ai l'impression qu'aujourd'hui la question de soi, de son bonheur à soi, a plus de place qu'avant, en fait. C'est-à-dire qu'avant, on était un peu plus sacrificiel.
T'as toujours la culpabilité.
La culpabilité existe, mais d'ailleurs, la preuve du nombre de divorces.
Le divorce, bien sûr, veut dire
qu'à un moment, on a beau avoir une culpabilité.
On ne divorçait pas dans les années 60.
Choisit.
Personne ne divorçait dans les années 60. Et puis, si on était enceinte, on gardait les enfants. On n'avortait pas. De toute façon, c'était pas possible à ce moment-là. Mais il y avait cette idée-là, en tout cas. Aujourd'hui, on a le droit de disposer de son corps, de disposer de son couple, de disposer de sa propre vie. Il y a des choses qui ont changé.
Toute une génération. Alors, est-ce que c'est pour des raisons de liberté personnelle, de responsabilité ou d'écologie, il y a beaucoup de personnes qui disent je ne ferai pas d'enfants parce que soit je n'ai pas envie que des enfants vivent dans ce monde avec tout ce qui va se passer et ainsi de suite, soit je n'ai pas envie d'avoir un boulet à mes chevilles.
Mais c'est intéressant justement ce que vous dites sur ça, c'est que regardez pourtant,
il n'y a plus d'obligation.
Bien que l'époque ait considérablement changé, une femme aujourd'hui, qui dit je ne veux pas d'enfant,
encore
on le
très,
regarde
très
comme une femme scandaleuse.
Non, 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 elle n'est pas jugée.
Moi, je trouve qu'il y a énormément de femmes
moi,
qui en reprochent.
J'en connais plein et qui l'assument et qui ne sont pas jugées.
Non, mais ces femmes-là, oui, qu'elles l'assument, elles, bien sûr.
Non, mais il y a des milliers. Et qui ne sont pas jugées.
Non, tu ne veux pas dire ça, c'est pas vrai.
Finalement, quel que soit le côté... Et puis, pardon, je ne voudrais pas forcément cloisonner homme-femme, parce que c'est...
C'est pas la question, là, oui.
Voilà, c'est pas la question. Et le prisme est de savoir à quel moment on est en paix avec soi et on se dit, on n'a qu'une vie, parce qu'il y a ça aussi. Je n'ai qu'une vie, je ne vais pas la gâcher en m'interdisant ou en m'obligeant.
Mais, encore une fois, ça ramène à ce que je disais, c'est que moi, je l'ai expérimenté, moi, par exemple, sur un plan très personnel. Quand, à 30 ans, je suis engagé dans une vie professionnelle qui me paraît très harmonieuse, je gagne très bien ma vie, j'ai ce qu'on appelle un contrat à durée indéterminée, j'ai une voie toute tracée, etc. Et tout le monde me dit, c'est formidable. Et puis, je me dis, tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire des livres, je vais quitter la vie rassurante, confortable et même luxueuse qui est la mienne.
Et pourquoi ?
Parce que je dois le faire, la nécessité. Parce que tout d'un coup, je comprends qu'il y a d'une part quelque chose que je fais, et de l'autre quelque chose que je suis. Mmh. Être écrivain, c'est une identité.
C'est le sujet du livre. Complètement.
C'est effectivement quelque chose que je suis. Et donc, il y a la question, c'est est-ce que je vais renoncer à ce que je suis profondément parce que finalement le confort est là, la tranquillité, la voie toute tracée, le destin merveilleux, est-ce qu'on attend de moi ? Et pire que ça, on reparle des injonctions. Moi, je suis le fils d'un instituteur, et on parlait des études payantes tout à l'heure. Mmh. Moi, je suis le fils d'un instituteur qui dit, l'ascenseur social, on le prend en faisant des études, tu feras des grandes écoles, mon fils, tu auras un beau travail, un beau métier qui te mettra à l'abri du danger. Et mes parents, qui n'étaient pas des gens riches, c'est le moins qu'on puisse dire, qui étaient des gens très très modestes, font un crédit pour payer les études à leurs enfants. Ils ont fait un crédit pour payer mes études. Mmh. Et moi, 10 ans après, je leur dis... Tous les efforts que vous avez consentis, je les envoie valdinguer parce que j'ai décidé que je quitte mon travail, que tout ce que vous avez rêvé
vous
pour moi, je l'envoie bouler.
C'est pas valdinguer. Vous avez une culture,
faut
vous
rembourser.
Avez...
Faut rembourser.
Et non, mais il y a l'idée de dire, je vais devenir un oiseau sur la branche. Moi, quand je dis à mon père, quand je mets à mon père le livre, le premier livre dans ses mains, il est accablé. Mmh. Accablé parce qu'il se dit, mais pourquoi tu te mets en danger? Pourquoi tu fais ça?
Il est inquiet.
Moi, je lui dis, il est très inquiet, je comprends, c'est l'inquiétude d'un père. Mm-mm. Et moi, je lui dis, je dois le faire. Je ne peux pas faire autrement.
Oh, vous êtes un monstre.
Il y a la nécessité de le faire. Et 25 ans après, je suis très heureux.
Mais
j'aurais pu complètement planter. Si j'avais pas de lecteur, j'aurais fait quoi
Vous parlez de votre éducation entre un papa instituteur qui est dans la transmission et une maman qui travaille chez un notaire qui est plutôt dans le secret. Oui. Entre transmission et secret, c'est vraiment aussi le binôme avec lequel...
Pas tout à fait un hasard non plus, on est d'accord.
De cette pension en Italie, chez Julia, Philippe Besson est notre invité. C'était jusqu'à midi et demi. Voici Julia Santini.
Ah oui,
bravo.
Bonjour. Merci Nagui de ce lancement. Bonjour à tous. Philippe Besson, je suis vraiment très content de vous rencontrer. J'espère que vous allez aimer mon papier, car moi aussi, paraît-il, j'ai une belle plume. Rapport au stylo, bande d'obsédés. Non mais c'est vrai, il y en a marre de recevoir ici des acteurs et des actrices pour les entendre nous dire « Alors en fait, j'ai accompagné ma sœur au casting et pfiou, la vie est folle, c'est moi qui ai été prise. » Putain, moi j'aimerais beaucoup avoir des nouvelles de la sœur, si elle est encore de ce monde. Non mais c'est vrai, non seulement elle n'est pas prise au casting, mais en plus elle voit sa sœur qui venait pour faire la figuration, mais au sens propre, Philippe. Lui voler la vedette, c'est dur ça, psychiquement. Terminé, revenons à l'essentiel. Parlons de moi. Alors récemment, dans l'actualité, j'ai été heurté par une scène en conférence de presse où Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, dit avec Donald Trump juste derrière « Les gens ne devraient pas s'amuser avec ce président. » C'est fou, j'ai trouvé que c'est fou ça de menacer comme ça les gens. Rubio, il doit bien diriger Cuba aussi, on m'a dit. Moi aussi ça pourrait m'intéresser. Non mais Trump, il veut envahir le Groenland. Et le Groenland, je savais pas, c'est la plus grande île au monde, mais la plus belle île. Ça reste roulement de tambour. Celle qui a su accueillir Jérôme Roten, saison 2011-2012. 7 buts, 3 passes décisives au Sporting. Qu'est-ce qu'il y a de Bastia? Celle qui a enfanté Alizé. Moi, je m'appelle Lolita. J'ai nommé la Corse. Alors moi, je m'inquiète. Imaginons que demain, en conférence de presse, Trump nous sorte... I think Corsica belongs to France, but these people are terrorists. Mais nous sommes un peuple qui ne se laisse pas faire. Nous, dans notre manche, on a Pedro Maria du village de San Gavino di Fiumorbo qui va lui sortir. Oh Donald, arrête un peu de terroriser tout le monde. Putanagoba, je te rappelle que tu t'appelles Donald. Tu as le prénom d'un canard. Tu es ridicule, oh Donald. Arrête tes conneries, va te faire un bain de siège au bas où l'on que tu es. Les Corses sont très terre à terre. Non, mais ils ont raison. C'est comme ça qu'il faut parler à ces bandits. Trump veut envahir le Groenland. Trump kidnappe aussi. Ça, c'est fou. Moi, je vous dis honnêtement, j'adorerais que Trump me kidnappe.
Carrément.
Alors, je m'explique. Oui. Pour arriver à cela, il faut d'abord élaborer une stratégie de provocation. Selon moi, il faut que je dise, sur France Inter, à une heure de grande écoute, même s'il est que 11h30, et que le meilleur créneau, c'est celui de midi 10, de Tanguy Pastureau. Mais putain, qu'est-ce qu'il a de plus que moi, lui ? Les cheveux, peut-être, même pas. Il faut, disais-je donc, que j'affirme que Trump a un petit kiki. Oui, vous trouvez ça peut-être ridicule, mais vous vous trompez. Lui, ça va lui faire mal, parce qu'il place sa masculinité à ce niveau-là. Alors que moi, pas du tout. Et je le vis bien, d'ailleurs. Car oui, au passage, je le dis, j'ai un petit kiki. On m'appelle tête chercheuse, dans le game. Oui, Nagui, oui. Donc, Donald, je te le dis ici, sur France Inter, Donald Trump, you have a little zizi. Oui, c'est pour mettre un peu de variation dans mon jeu. Je rêve alors du moment où Donald Trump va organiser une conférence de presse pour me menacer, je le vois sur la scène, faire « I think Julian Santini has to be careful. He shouldn't have to say I got a little zizi. » À ce moment-là, bim, il me kidnappe, comme Maduro avec sa femme. Il me kidnappe avec la mienne. Purée, la pauvre Miskina. À cause de moi, elle est sur un tabouret. Il lui ligote les mains avec une petite cordelette qui à tout moment manque de lui sectionner les veines. Mais les barbares ne s'arrêtent pas là. Non. Ils lui mettent également du scotch sur la bouche. À ce moment-là, on n'entend rien. On entend que À ce moment-là, de la scène, terrible scène, ma femme ne peut plus parler. Je répète cette information, ma femme ne peut plus s'exprimer. Ce qui veut dire que je l'entendrai plus dire le matin à 7h au petit déjeuner. Mon chéri, est-ce que je peux te parler des problèmes que j'ai au travail avec ma collègue Brigitte? Eh ben non! Désolé Nadia! Trump, je me réponds. Hey, Santini's a terrorist. You're gonna die, Corsica. Et là, je jouerai ma carte magique. Comme au poker, au moment où l'on fait tapis, je sortirai ma plus belle carte. Je dirai, hey, Donald, you say what? I know Nagui! Ta-da-ta-ta! Ta-da-da-da-da-da! Don't forget les paroles! So, qu'est-ce que tu vas faire, gros? Et Trump, oh, Nagui, he's égyptienne, he's a terrorist too! Oh non! Et là, pour finir dans la langue de Molière, qui m'est si cher, Philippe, j'espère que vous apprécierez et reconnaîtrez le collègue en moi, tel Cyrano d'Edmond Rostand, alias Edmond Laroros, j'accèderai à mon adversaire mon plus beau proverbe et je lui dirai, oh Donald, c'est celui qui dit qui est! Je m'appelle Julien Santini, merci beaucoup.
Yes! J'ai eu peur.
Alors, si vous voulez retrouver la tête chercheuse, c'est au théâtre de la Gaîté Montparnasse. Autrement, il est en tournée. Le 6 février, il est à Neuchâtel. Saint-Étienne, ce sera le 13 février. Il sera en Belgique à 8. Le 21 janvier, le missile de Bastia.
Pour moi, la vie va commencer en revenant dans ce pays, là où le soleil et le vent. Là où mes amis, mes parents avaient gardé mon cœur d'enfant.
La bande originale de Philippe Besson, elle est aussi un peu dans le livre de Philippe Besson, Une pension en Italie, avec en l'occurrence Françoise Hardy, Les garçons et les filles. Beaucoup de chansons d'amour.
Oui, on sait pas pourquoi.
C'était la période qui voulait ça.
Je sais pas, moi j'aime les chansons d'amour, pas vous.
Ok. Si, mais je me demande si elle ne parlait pas beaucoup plus d'amour avec justement ces clichés. Oui, avec ces clichés d'un garçon et d'une fille qui se baladent la main dans la main et d'autres qui sont seuls, tout seuls. Voilà. La nécessité, l'urgence, le choix qui s'impose sous ces termes employés avec une personne qui se demande qu'est-ce qu'elle va faire de sa vie. C'est la question que cette personne, avec la responsabilité de devoir gérer la famille qui est derrière.
Il ne voulait plus l'entendre parler de sa collègue de travail au petit déjeuner, c'est pour ça.
Pour ça, voilà. On vient de trouver l'explication, elle ne semblait pas rire.
Tout à l'heure, c'est Déborah. On va passer à autre chose. Hein. C'est Déborah Schumann qui sera notre invitée. Nous allons
Déborah Schumann, venir,
Antonio aussi. Si, elle est gentille. Ouais. Elle va parler justement des secrets de famille. Est-ce que toutes les familles ont forcément un secret? Et quel est le secret de notre propre famille? Une question que posait Elisa tout à l'heure. On va lui poser cette question. Philippe Besson, vous écoutiez-vous en 99?
Une ville se fane dans les brouillards salés.
Francis Cabrel, il se passait quoi en 99, là, dans la vie de Philippe Besson?
Une rupture amoureuse.
Ah oui, oui, c'est pas de bol, oui.
Le 4 septembre, ouais. Vous donnez la date.
Ouais.
Et tout d'un coup, il y a un tout bascule, tout est bouleversé.
Oui, en fait, je suis très très amoureux. Ça fait presque 4 ans que l'histoire dure et je m'attends pas à me faire larguer du jour au lendemain.
Mais c'est étonnant de se souvenir de la date.
Oui, bah parce que c'était assez étonnant. Ça se passe à la gare Montparnasse. Je vais l'attendre à la gare. Il vient d'un week-end à Nantes. Il arrive sur le quai et il dit rien et il dit rien et je comprends que c'est fini. Voilà, on rentre à la maison et c'est terminé. C'est terminé.
Et vous avez gardé tous les détails, comme le personnage de Suzanne dans le livre.
Je me souviens de tout.
Tout,
oui. Ouais. Mais je me souviens toujours de tous les détails. Les détails disent toujours l'essentiel. C'est ouais. toujours, et c'est ceux qui vous crucifient. C'est quand vous
les voyez. Notez quand même ou pas? Vous
Alors, avez incarné, certains d'entre eux, je les note, mais la plupart, non. C'est comme une espèce de valise imaginaire, sentimentale, dans laquelle il y a tout ça, tous ces souvenirs, tous ces détails. Et quand j'écris un livre, ils me reviennent souvent. Ça ressurgit. Et donc, oui, le moment de la rupture, le moment où il avance sur le quai de la gare à Montparnasse, j'ai tout. Le moment où on rentre, le moment où après je glisse sur le sol, le long d'un meuble, et c'est fini. Je sais que c'est fini.
Et vous savez pourquoi ? Est-ce que c'est...
Je pense que je savais depuis le début que ça se finirait. Oui. Je savais que l'histoire avait sa propre fin dès le début. Je savais qu'un jour, il repartirait. Et donc voilà, c'est ce jour-là, ça arrive. Et donc oui, c'est resté. Inoubliable.
Et pourquoi ce titre de Cabrel ?
Parce qu'il me m'arrache des larmes. Parce qu'il y a l'idée que... j'ai beaucoup fréquenté les villes balnéaires atlantiques hors saison. Moi, je viens de ces endroits-là, puisque j'ai grandi dans le Charente. Midoret, La Rochelle, tout ça. Et donc, aujourd'hui, je suis du côté du bassin d'Arcachon. Et je trouve que quand vous allez dans ces villes balnéaires,
tout
l'hiver...
Tout est fermé, les cabines fermées.
Tout est fermé, ouais. Voilà, on ne vend plus de glace, on ne vend plus rien, tout, voilà. Et vous avez juste des vieillards qui se promènent le long de la jetée. Et en même temps, c'est déchirant. Et c'est magnifique. Et en même temps, quand j'étais ado, je trouvais ça terrible. Puis maintenant, je suis une vieille personne. Je me dis, je suis une de ces vieilles personnes qui marchent le long de la mer ou de l'océan l'hiver.
Et vous savez ce que disent les ados quand ils vous croisent maintenant?
Oui, c'est ça. Vous avez vu la vieille dame.
En 2001, Philippe Besson, vous écoutiez Marc Lavoine. Oh, ouais. Vous arrivez d'écouter des chansons qui vous mettent de bonne humeur ou...
Oui, parfois, mais c'est vrai que... Oui, mais
les chansons... C'est quand vous êtes largué Gare de Lyon,
c'est ça. Oui, mais souvent, les chansons déchirantes sont sublimes, quand même.
Comme les livres?
Oui, voilà, peut-être que c'est un peu ça, oui. Mais moi, j'aime bien écrire des choses déchirantes, parce que c'est bien de provoquer des émotions chez les lecteurs et les lectrices. Il faut, c'est bien quand les gens pleurent à la fin aussi, parce que c'est une forme de reconnaissance, des larmes. C'est une façon de dire qu'on a ressenti quelque chose.
Ouais, ou d'un lâcher prise.
Et c'est
d'assumer,
beau.
Oui. On est en 2001, déjà.
Oui, et vous publiez votre premier roman, En l'absence des hommes.
Oui.
Une histoire d'amour.
Ouais, sur fond de Première Guerre mondiale, absolument.
Avec Marcel Proust, tiens.
Avec Marcel Proust, un personnage secondaire. Oui, le type complètement cinglé, tu vois. Le truc qu'on ne peut pas refaire après coup. C'est-à-dire qu'en fait, je publie un premier roman dans lequel j'écris, moi, Philippe Besson, total inconnu, des lettres de Marcel Proust. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je publie un livre, on me dirait, écoutez, non, mon vieux, n'y allez pas. C'est mieux que vous ne fassiez pas, parce que là, vous ne mesurez pas.
Personne ne vous l'a dit, là.
Mais non, parce que le primo-romancier, on lui autorise tout. On se dit, le type est cinglé, c'est pas grave, mais on va pas lui en vouloir, il tente un truc. Bon.
Et pourquoi ce sujet dans cette période-là?
Parce que, en fait, j'avais lu les lettres des Poilus, vous savez, qui avaient d'ailleurs été lues sur France Inter pendant des années. C'était absolument sublime, c'était déchirant. On voyait ces Poilus qui écrivaient à leurs femmes, restées évidemment loin du front. Et c'était des mots d'amour magnifiques, parce que c'était, mais dit avec les mots de tous les jours. Et c'était, ça me tordait le cœur. Et je voulais raconter ça, je voulais raconter la vie d'un soldat parti sur le front et qui revient pour une semaine de permission et qui, dans cette semaine-là, où il se dit peut-être c'est la dernière fois que je suis encore vivant, va essayer de vivre une histoire d'amour intense avec Proust qui est dans les parages et qui regarde ces jeunes gens. Ouais.
En 2004...
Ça va être mieux, là.
C'est sympa, là. C'est joyeux, c'est plus enlevé.
Ça va, oui.
Quelle belle fête.
Maroon 5 avec This Love, et ce sont les jours fragiles qui sont publiés.
C'est ça, après Marcel Proust et Arthur Rimbaud.
Ouais. Mais bah oui, mais pourquoi aussi? Parce que
les derniers jours d'Arthur Rimbaud. Ouais.
Très admiratif de l'œuvre évidemment de Rimbaud, parce que je trouve qu'on est face à un mystère absolu qui est le type quand même écrit entre 16 et 20 ans les plus grands poèmes de la littérature mondiale sans jamais avoir été égalé, et le type à 20 ans décide de s'arrêter sans explication, sans préavis, sans jamais y revenir. Voilà, c'est fini. Devient trafiquant d'armes en Afrique. Bon, parfait, avant de revenir mourir dans les Ardennes,
pas, mais... amputé.
Non, mais génial. Sauf que la
conversion comme une autre.
En fait, le truc, c'est que
romanesque.
La vie, voilà, exactement ce que Daniel. La vie de Rimbaud est tellement folle, tellement romanesque. Ah, oui. Elle est tellement plus forte que n'importe quelle fiction qu'on pourrait inventer. Mm. C'est-à-dire, encore une fois, si Rimbaud n'existe pas, que moi, romancier, j'écris cette vie-là, mon éditeur me dit, mon vieux, personne n'y croira à votre truc, hein, arrêtez ça tout de suite. Et donc c'est ça qui m'intéresse, c'est quand tout d'un coup la vie d'un homme, d'une femme, est tellement hors du commun, tellement au-delà de tout entendement, de toute intelligence, que ça mérite d'en faire un livre.
Oui, et de ramener peut-être le génie de l'écriture de Proust ou de Rimbaud à une nature humaine. Absolument. Basique, en disant, ça reste des êtres humains.
Ça reste des êtres humains, et voilà ce qu'ils étaient. Parce qu'en plus, c'est un Rimbaud qui souffre, un Rimbaud en fin de vie, et qui se libère d'un certain nombre de secrets, lui aussi, que j'ai voulu raconter dans ce livre-là. Oui.
Et être écrivain, ça donne pas envie d'avoir une vie très folle et romanesque au point de se la créer, de se mettre dans des situations qui font que...
Alors, précisément, moi je pense que j'ai écrit... Enfin, je suis devenu romancier pour vivre d'autres vies que la mienne. Mm-hmm. J'aimais ma vie, hein, je l'aime toujours. Mais y a l'idée que le roman vous donne la possibilité de devenir un jour une femme en robe rouge dans un tableau de Hopper, le lendemain un gigolo à la gare de Florence, car non, je n'ai pas été gigolo à la gare de Florence.
Vous n'avez jamais été en robe rouge dans un tableau de Hopper?
Alors ça, c'est moins... Je n'ai pas... Vous voyez, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit parce qu'il y a des... Je crois qu'il y a des photos.
Moi, j'ai vu les photos.
Daniel les a vues. Donc, je n'ai pas voulu insister sur ce sujet, mais...
À travers la littérature.
J'étais sublime.
Non, mais à travers la littérature, certes, mais dans sa vie personnelle, se dire, une fois que j'ai quitté mes personnages, bon, ben moi, je suis Philippe Besson, je suis chez moi tranquille, là, je suis en train de me faire décongeler un plat,
bah, et puis je vais regarder une petite série. Moi, oui, c'est moi le rôle, je suis d'accord par moment.
Oui, mais ça donne envie de revivre une aventure.
Donc, du coup, je reviens au livre le lendemain, et donc, hop, ça repart.
Et ben revenons au livre, justement, Une pension en Italie chez Julia.
N'en dis pas trop non plus.
Philippe Besson signe ce 25e ouvrage. Et Déborah Schumann, Antonio nous a rejoint. Bonjour madame.
Bonjour.
Merci d'être venue malgré ce que vous avez pu entendre depuis le début de cette émission. Question posée par Lisa Delmoitié tout à l'heure. Toutes les familles ont forcément un secret?
Quasiment toutes, oui.
Merci beaucoup, bonne journée.
Merci.
Ah ouais. On doit donc forcément se construire avec, et il faut presque rassurer tout le monde en disant c'est normal.
Oui, alors il y a des vraies choses qui sont terribles et qu'on cache, etc. Puis après, il y a des secrets, j'allais dire, beaucoup plus légers. Hein. Il faut quand même... moi, j'aime la nuance, donc il faut quand même nuancer. Tout n'est pas
déjà
grave.
Déjà, la vie intime doit rester un
doit
secret.
Doit rester un secret.
À la base.
Toujours.
Dans une famille, on n'a pas, pas expliqué l'intimité ou la sexualité des parents, des enfants.
Ça n'est pas intéressant.
Et rend les photos...
Ça peut être traumatisant, surtout. Voilà. Plus qu'intéressant,
ah,
mon sens.
S'explique.
Mais il faut faire le distinguo entre ce qui est un secret de famille, j'allais dire vraiment...
La gravité en fait, du secret.
Voilà, la gravité, et puis le secret, qui en effet sont des choses qu'on n'a pas envie de raconter, par juste respect pour nos enfants, notre entourage, ou qui n'apportent rien en réalité à la famille.
Donc la gravité d'un secret, c'est la même gravité que celle vis-à-vis de la loi. Par exemple, la gravité d'un meurtre, d'un vol, d'un cambriolage, d'une agression.
Pas forcément, parce que je crois que ce qui est intéressant, c'est de comprendre que dans chaque famille, en fonction de nos propres valeurs, nous avons, nos valeurs qui nous disent « ça, c'est gravissime ». C'est gravissime, par exemple, que machin ait trompé ou ait eu un enfant ailleurs.
Alors pour d'autres, c'est pas grave.
Donc c'est pas vis-à-vis de la loi pour vous?
Pas forcément. Pas forcément. Et donc, ce qui pourrait mettre en péril une famille, au vu des règles de la famille et des croyances de la famille, c'est ça qui devient secret. C'est de se dire, à un moment donné, je dis n'importe quoi, le grand-père a trompé, a eu des enfants ailleurs, et bien pour nous, ça met en péril notre famille, pour nous, ça devient un secret qui est grave. Et donc, on ne veut pas en parler.
Est-ce que les questions sont naturelles? Est-ce que tous les enfants finissent par poser des questions en disant « mais je ne sais rien de ta vie, je ne sais pas qui tu étais quand tu étais adolescente ou adolescent ?» Raconte-moi, est-ce que ça c'est naturel? Et pour se construire, finalement, les enfants ont besoin de ces questions?
Les enfants ont besoin de poser des questions et pour autant, le silence ou la manière dont on va leur répondre ou ne pas leur répondre, ou j'allais dire vraiment, on sent qu'il y a certains sujets quand on est enfant, on pose la question et systématiquement, la question est éludée. Elle est contournée. Donc systématiquement, on sent qu'il ne faut pas aller sur ce terrain. Donc on ne posera pas la question, parce qu'on sent qu'il ne faut pas y aller. Et comme un enfant a très peur de perdre la relation et l'amour de ses parents, il va éviter de poser les questions.
Bon, on a peur de blesser, surtout.
Oui, on a peur de blesser, on a peur de raviver des blessures.
Est-ce que la vérité ne blesse pas plus que certains mensonges ?
Parfois. Parfois oui. Parfois oui, parce qu'il faudrait que le mensonge, il soit, une fois qu'il est dit, parce qu'évidemment, il peut être dit, et c'est plutôt sain aussi de le dire, mais il ne peut pas être dit d'une manière brute, il ne peut pas être dit, de mon point de vue, sans qu'à un moment, on ait compris la nature de ce qui s'est passé, qu'on l'ait accepté, et qu'on puisse le livrer sans trop d'affect à l'autre. C'est-à-dire, je ne vais pas te donner la patate chaude, te dire oh, « c'était horrible pour moi, et maintenant, c'est à toi de le porter ».
Alors justement, la question, est-ce que ce sont les enfants qui généralement posent des questions pour connaître le passé de leurs parents, ou est-ce que ce sont des parents qui... en fin de vie, ils se disent « je vais me débarrasser de ce secret, donc patate chaude, à toi de te débrouiller avec ça ».
Parfois oui, parfois oui. Il y a vraiment des gens qui ont un sentiment que, et j'en vois moi dans mon cabinet, qui ont le sentiment que ce secret, ou en tout cas ce non-dit, est un empêchement pour eux d'évoluer et d'exister. Donc là, ils vont vraiment se questionner, etc. Ils vont vraiment aller questionner le
donc
parent.
Donc vous êtes d'accord avec la formule de Philippe Besson, c'est s'accepter, avoir sa vie à soi.
Exactement.
Il y a un moment où il faut... que ça sorte.
Oui, il faut que ça sorte et d'accepter, de mon point de vue en tout cas, que ce secret, parfois, n'a rien à voir avec moi. Il a à voir avec ma famille. Et j'allais dire, nous, en thérapie, ce qui compte, c'est pas tellement que le secret soit dit, c'est de se dire à un moment, j'accepte qu'il existe.
Surtout quand il n'est pas contre les autres, spécialement.
Voilà.
C'est simplement,
ça fait partie de ma vie, ça fait partie de ma famille, mais je n'en suis pas responsable. Et quand on arrête de porter le secret de quelqu'un dont on n'est pas responsable, là, réellement, il y a une avancée.
Et on va vraiment mieux après.
Et on va vraiment mieux après. Puisqu'on sent qu'on n'est plus responsable de quelque chose. Le pire dans le silence, c'est de se sentir responsable de quelque chose qu'on n'a absolument pas fait.
Thérapeute conjugale et familiale et sexothérapeute, Déborah Schumann-Antonio. Quelqu'un a des questions à poser ?
Est-ce qu'il y en a qui se confient à vous ? Parce qu'il
merci Daniel. Merci.
Il y en a qui se confient à vous ?
Oui.
Ouais.
Oui, oui, très régulièrement. Des gens qui me disent, je ne sais pas comment... Voilà, très bonne question. Je ne sais pas comment dire, où est-ce que vous pouvez m'accompagner, donc ça m'est déjà arrivé, d'accompagner des gens qui viennent finalement derrière avec leurs enfants et qui décident, ensemble, dans un cabinet, de dire les choses. Mais vraiment en disant, il faut que je le dise de manière la moins traumatique possible, donc j'ai besoin d'être accompagnée pour le faire.
Oui, puis c'est une façon de faire la paix avec son passé, d'une certaine manière. Exactement. Et d'enclencher un mécanisme de réparation.
De réparation.
Bien sûr, la réparation,
cette construction qui va être beaucoup plus forte d'ailleurs avec son enfant, puisque soudainement, il y a quelque chose qui se produit entre les deux,
De rajouter une tierce personne évite le jugement aussi.
Exactement. La peur, en fait, qu'à un moment donné, on claque une porte, on s'en aille, on ne puisse pas dire les mots et qu'il y ait une neutralité dans ce qui va être dit.
Merci Déborah.
Merci
à vous. Bonne journée, bon
merci
week-end.
Vous
voici Emma Beaujean.
Ah oui, Emma.
Bravo.
Quel hommage.
Bonjour. Alors tous les jours dans cette émission, je rends un hommage et aujourd'hui j'ai décidé de rendre hommage aux ordinateurs.
Bienvenue dans le monde des ordinateurs. Votre mail a été transféré, je suis un ordinateur.
Oh ça va, merde, on rigole, hein. Je tente un peu plus de jeux en 2026, ça va, du coup c'est pas France Culture non plus. Bon, je peux en placer une. Alors, je veux rendre hommage aux ordinateurs parce que bah, sans eux la vie serait quand même beaucoup moins simple. Hein. Moi j'ai eu mon premier ordinateur très jeune, c'est mon papa qui m'a acheté un genre d'ordi pour enfants sur lequel tu peux juste regarder des films. J'ai eu ça comme cadeau le jour où j'ai appris que mon père, s'il était chauve, c'était pas à cause de la calvitie, non, 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 à cause de sa leucémie, un tricholocyte chronique qui allait nous forcer à déménager pour entrer en métropole, Alors après, papa, je t'aime énormément, mais avoir le cancer n'empêche pas d'être un petit peu con sur ce coup-là, je m'explique, parce qu'il avait acheté ça pour que je m'ennuie pas dans l'avion pendant le déménagement. Sauf que, ben, dans l'avion, il y a des écrans, Gilles, avec beaucoup plus de films, en fait, Gilles. Et moi, j'avais que 3 films, en fait, sur mon petit ordinateur. J'avais les films d'animation Là-haut, Volt, et j'avais LOL. Le film avec Sophie Marceau, hein. J'avais pas LOL qui ressort. Ça complètement contient, ma fille de 6 ans, détends-toi avec ce programme bas de gamme pour trentenaires dépressifs qui n'existe pas encore. Donc, revenons-en aux ordinateurs. C'est trop cool, les ordinateurs, ça me permet de travailler, ça simplifie plein de tâches, même si j'avoue que moi, j'aime bien faire plein de choses à la main. Voilà. Il y a des trucs que je préfère faire avec ma main, toute seule, sans toi, Mickaël. Est-ce que c'est clair? J'en profite pour passer des messages à l'antenne. Donc, j'aime bien écrire à la main, c'est chouette, c'est un peu old school, genre. Je suis toujours un petit peu en décalage et quoi qu'il arrive, je me sens un petit peu plus vieille que les gens autour de moi. Enfin, pas tous les gens autour de moi. Tant qu'il passe du côté plus vieux que Dracula. du sort, mon ordinateur pour enfant, en cadeau de cancer, a eu un jour un virus. Tiens. Et oui, sa défense immunitaire n'était pas top. Excusez-moi. Et il m'a lâché donc après l'ordinateur. Hein, et j'étais un petit peu grande pour continuer à m'en servir, dans le sens où le clavier AZERTY était remplacé par un clavier soleil qui sourit, soleil qui pleure. Donc pas dingo pour écrire les chroniques. Et du coup, j'ai demandé à Nagui un ordi à Noël. Voilà, mais il me l'a pas donné. Bon, un peu d'aigle. Il m'a dit, ah, c'est un peu chaud en ce moment. Tu sais, je viens d'acheter une île. Donc un peu tendu. Et ce qui est sûr, c'est que les ordinateurs, ça fait partie de ces trucs que j'exploite à 1% seulement. Le truc peut piloter une fusée. Moi, je fais des paniers à sauce avec, genre même Excel. Vous savez tout ce qu'on peut faire avec le logiciel Excel ?
C'est fou.
Moi, non. Comme beaucoup de choses auxquelles je rends hommage quotidiennement, l'ordinateur, c'est un très beau souvenir de mon enfance. C'était l'astuce que mon papa avait trouvée pour rendre les coups durs en coumou. Ça te parle, ça, Michael, les coumous ? Hein, t'as capté ? Comment ça, c'est un problème d'attitude, on vit au rez-de-chaussée. Bref. Et ce qui est quand même fou, c'est que mon papa a vraiment réussi à me déclencher beaucoup de fou rire lorsqu'il est sous chimio. Alors que moi, elle me sent rien sur le plateau. Ici, c'est un petit peu délicat. Alors, c'est ni au film de l'enfance, ni à mon ordinateur que je rends hommage aujourd'hui. C'est plutôt aux jolies histoires que les papas racontent. Parce qu'à cette heure-là, toutes les petites filles du monde sont fières de leur papa. Et c'est à ça que je rends hommage aujourd'hui.
Mais ouais, moi j'embrasse ton papa. Mon Gilou. Elle est où, Emma Beaujean ?
Elle est sur scène. Elle sera à Bulle. Elle sera à Bulle le 25 janvier. Elle sera à Biarritz le 4 février. Évidemment, Michael ne sera pas là.
Tanguy, de quoi vas-tu nous parler ?
Du luxe capping, c'est une nouvelle tendance qui consiste à se payer une nuit en hôtel spa de luxe au milieu d'un pauvre séjour au Campanile, quoi, juste pour profiter au moins un petit peu quand on n'a pas beaucoup d'argent.
Bonne idée.
Philippe Besson est notre invité pour cette pension en famille, son nouveau roman chez Julia. Chut. Eh ben, c'est la bande originale, figurez-vous, avec Leïla Kadoumidadi, avec Lisa Delmoitié, Emma Beaujean, Oldelaf, Tanguy Bassureau, Julien Santini, Daniel Morin.
Pourquoi Santini ?
Et notre invité, Monsieur Philippe Besson.
France Inter, la bande originale. Leïla Kadour et Nagui.
Ça se passe en Italie, mêlant suspense et sensualité, comme c'est précisé. Quatrième de couverture, une pension en Italie chez Julien Philippe Besson. En quoi ce 25e roman est différent des autres ? Il y a toujours une part de vous, il y a toujours une part de vrai, il y a toujours une part de fiction, mais en quoi celui-là résonne-t-il différemment, à part d'être le petit dernier ?
Bah déjà, c'est pas mal, c'est une vraie différence. Mais parce que je pense que ça creuse encore plus loin la question de c'est quoi justement choisir d'être soi ? C'est quoi à un moment assumer un certain nombre de choix personnels ?
Au risque de faire du mal ?
Oui, c'est ça. Je vais jusqu'au bout d'un sillon que j'explore aussi. Et puis,
est-ce que c'est pas aussi égocentrique de se dire, même si je vais faire du mal, même si je vais blesser, quitter, faire pleurer des enfants, ruiner une famille, rester sans aucune nouvelle pendant des semaines, voire des mois ou des années, ça veut dire juste je m'occupe de moi et que ma gueule et je me fous totalement des autres et tant pis si je fais du mal.
Oui, mais c'est justement pas ça. Je pense que...
C'est un peu ça aussi quand même.
Bien sûr que faire ce choix-là, ça crée des dégâts et que c'est penser à soi d'abord. Mais c'est juste que celui qui pense à lui-là, il a pensé aux autres tout le temps avant.
C'est ça.
Il a fait passer les autres avant lui pendant 40 et un peu plus d'années.
Oui, mais il a nourri des espoirs aussi.
Il a nourri l'espoir que ça finisse. Ouais.
Mais il n'a qu'une vie.
Mais à un moment, c'est quelqu'un aussi qui s'est mutilé, qui a été face à des dilemmes moraux terribles, qui a été face à des douleurs intimes, cachées, dissimulées, violentes. Et à un moment, il décide, qu'est-ce que je fais avec ma douleur ? Qu'est-ce que je fais avec mon identité ? Qu'est-ce que je fais avec celui que je suis profondément ?
Et donc, c'est le prix à payer pour
assumer... C'est le prix à payer pour être soi, bien sûr. Ouais. Mais oui, on pourrait dire non, il aurait dû ne pas choisir l'égoïsme et au contraire continuer dans le sacrifice, ou au contraire saluer cette magnifique liberté qui est de dire, voilà, j'ai le droit d'être heureux, moi aussi.
Et qui peut servir d'exemple.
On a
aussi
le droit d'être heureux. Et quand on est heureux, parfois ça rend d'autres malheureux. C'est
question
ça,
que l'on peut chacune se poser en disant, mais qu'est-ce qui se passe si dans ma vie je me retrouve dans une situation qui me coupe le souffle, qui me fait
une
tachycardie en disant, mais qu'est-ce que je fais ?
Est-ce qu'il y a aussi d'être amoureux.
Et puis il y a aussi une question qui est celle, j'ai beaucoup espéré dans le doute, mais et que c'est un dialogue que j'ai beaucoup avec les lecteurs et les lectrices, c'est ça fait quoi de passer à côté de sa vie ? C'est quoi le
ça,
regret...
je peux vous répondre.
C'est quoi le regret qu'on porte quand on est passé à côté de sa vie? Quand à un moment, on n'a pas fait le choix qui nous aurait peut-être ouais. permis d'être heureux.
Après, c'est, dur, c'est, une question, hein. voilà. c'est une question de croyance ou pas aussi. Karma, est-ce que c'est ma, c'est, voilà, c'est ma destinée?
Est-ce qu'on le sait quand on passe à côté de sa vie déjà?
Bah, on le sait après, je pense. Ah ouais, c'est quand je pense qu'à un moment, quand on est vieux, on se dit si j'avais fait un autre choix ouais. à ce moment-là dans ma vie, si j'avais suivi
alors,
celui-là
ou celle-là. C'est la fameuse phrase entre les regrets et les remords.
Oui, mais, vrai, oui bah... mais c'est fondamental.
C'est vrai.
C'est, moi, je suis arrivé à un âge où je regarde en arrière et je me dis... Ah non, justement. ah bon. Et où je me dis, si à cet âge-là, j'avais fait un autre choix, je ne serais pas cet homme-là aujourd'hui. Je ne serais pas devant vous comme ça aujourd'hui.
Vous avez un exemple?
C'est certain. Oui, bah, je pense que par exemple, ce que j'ai vécu à 17 ans que je raconte dans Arrête avec tes mensonges, oui. je pense que si l'histoire se termine autrement, je ne deviens pas écrivain, je ne suis pas l'être écorché vif que je suis devenu après, je ne suis pas quelqu'un qui a peur de tout après, enfin voilà. Mm. Donc c'est, ça, ça m'a construit, ça m'a nourri. Je pense que si l'histoire se termine autrement, je ne suis pas du tout ça.
Oui,
je pense que
vous
je prends
avez,
une trajectoire de la même
avez,
manière.
Vous avez fait de cette blessure un talent,
bien sûr.
Une force, oui.
Mais d'autres circonstances, je l'ai dit, donc je peux le redire là, mais quand vous êtes confronté à la maladie, comme je l'ai été à deux reprises dans ma vie, il y a la question de, vous vous dites, quel est le temps qui me reste? Et quand on vous dit, finalement, c'est pas pour ce coup-ci, qu'est-ce que vous faites de la vie?
Le temps qui reste.
Comment vous la savourez? Ben, vous la savourez totalement différemment. Et en même temps...
C'est ce qu'on retrouve là, oui.
Et en même temps, il y a cette idée que ça vous plonge aussi dans une forme de fragilité. Mmh. C'est-à-dire que vous êtes heureux d'être un survivant, mais vous dites, c'est passé si près que ça peut repasser... Et cette fois, me visait en plein cœur. Oui. Et donc, vous êtes dans une forme d'instabilité, d'insécurité totale.
Et donc,
de bonheur d'être vivant et d'insécurité
d'urgence.
Et d'urgence et de nécessité.
Et on s'en sort pas avec Besson.
Le choix, non, ben non, mais parce que c'est toujours dans la nuance,
en
fait.
Jamais, on s'en sort jamais.
Et c'est en ça que c'est solaire
trop
et qu'il y a cette tension et qu'il y a cette véritable enquête qui est menée par un enfant qui veut comprendre quel est le secret de famille et remonter des pistes et retrouver peut-être des témoins et des personnes qui vont pouvoir raconter ce qui s'est réellement passé. Et finalement, son enquête n'a qu'un but, c'est de mieux se connaître soi aussi.
De connaître ses origines, bien
et
sûr.
Et de s'accepter.
Et de s'accepter lui-même
aussi.
Absolument.
Pour sa vie à soi, pour reprendre votre expression. Chez Julliard, une pension en Italie, le nouveau. Philippe Besson, voici l'ancien temps qui passe sur vous.
Bravo. Je ne sais pas si vous appréciez le luxe, moi oui, j'ai toujours aimé ça. C'est pour ça que rendez-vous en terre inconnue, je ne pourrais pas faire quoi 9 nuits dans une cabane en sable plutôt que crever. D'ailleurs, même les gens qui y habitent font semblant d'être heureux. En off, ils demandent à la prod des passes pour le Hilton qui est de l'autre côté de la forêt. C'est même pas une question d'âge. Quand j'étais jeune, je veux dire encore plus que là, je faisais du camping pour suivre les copains, mais le bloc WC avec les bruits des gens, pour peu que tu sois au bassin d'Arcachon, tu as toujours 15 Allemands par soir qui réalisent qu'en fait ils étaient allergiques aux huîtres et qui se vident par tous les trous. Je savais que c'était pas pour moi. Je sais qu'on vit à une époque où les gens qui gagnent de l'argent sont jetés en pâture à la foule vengeresse. Prenez Nagui. Il y aurait tellement d'autres choses négatives à dire sur lui. J'en ai d'ailleurs noté plusieurs, j'en parlerai lundi parce que j'ai lancé l'impression de ma petite liste il y a 3 heures et tout n'est pas encore sorti. Moi, je suis pas jaloux de l'argent des autres parce que je sais que l'argent ne fait pas le bonheur. Regardez Bernard Arnault, ce pauvre homme à l'œil humide qui ne connaîtra jamais la joie simple d'une soirée au bowling quand on met ses doigts dans les trous de la boule et qu'on dit ça me rappelle un Allemand il y a longtemps, camping au Cap Ferré, une allergie. Non, je suis jaloux d'autre chose, de la régularité de Philippe Besson, un livre par an. Être fan de Besson, ça veut dire que tous les 7 janvier à 9h, tu as ton livre. Quel confort! Un sommet qui est plus rassurant qu'une paire de pantoufles portée par un oncle qui a eu accès à la castration chimique. Je suis jaloux de l'inconscience d'Oldelaf qui chaque matin lit le texte de sa chanson et déclare « ça va le faire ». Alors que nous, avec des gobelets de café, on écrit « help » sur le toit de la maison de la radio pour que du ciel ce soit visible et qu'on vienne le chercher. Mais l'argent, bof, déjà j'en ai. Pas de dingue, mais enfin ça va. Disons que je peux acheter les vrais pépitos et pas les Pablo, les pépitos premier prix. En plus, je suis en tournée, donc en fonction du remplissage de la salle, j'ai accès à tel ou tel type d'hôtel. Voilà, si je vois sur la feuille de route Ibis budget, c'est mauvais signe. Mercure, ça veut dire qu'il y a un peu de monde dans la salle. Sofitel, ça veut dire que par erreur, on m'a envoyé la feuille de route de Paul Mirabel. Hein, le Sofitel, tu es bien. Oh là là, trop parfois. On se souvient que Dominique Strauss-Kahn, il y a longtemps, qui avait cru que le personnel était compris dans les prestations. Hein, mais à moins que la dame soit dans le minibar, c'est faux. Hein. Pourquoi je vous parle du luxe, chers amis de gauche, et toi aussi, Julien Santini? Eh ben, parce qu'il y a une nouvelle tendance, le luxe capping, surtout chez les jeunes. Les jeunes, ce sont ces personnes sans rides qui nous ont fait 1000 leçons sur l'écologie et depuis qu'il a sorti du Covid, prennent l'avion 16 fois par an pour garnir leur Insta de photos avec des lamas. On les déteste. Hein. Le luxe capping, ça consiste à se payer un resto de luxe ou une nuit dans un palace ou un spa pour commencer ou conclure ses vacances parce qu'on n'a pas assez d'argent pour le faire sur l'ensemble du séjour. Exemple.
Vous prenez 14 nuits dans un hôtel 0 étoile. Des blattes vous rentrent dans la bouche pendant que vous dormez. Vous chopez la légionellose. Mais à la fin de votre séjour, alors que vous ne faites plus que 22 kilos, vous ressemblez à une plaquette de saumon enfumée de la marque Repère. Vous payez une nuit à Deauville, au Normandie. Et là, ça vous requinque. Champagne au petit-déj, votre voisin de table, c'est Pascal Obispo, qui ne chante pas puisqu'il mange des chouquettes au caviar, donc tout va bien. Il pleut, vous appelez la réception 4 minutes plus tard, il fait beau. J'adore cette ambiance. Je suis allé au Normandie une fois parce que je jouais dans le théâtre du casino qui appartient au même groupe que l'hôtel. J'étais venu avec mon chien. Dans la chambre, sa gamelle était prête. Il y avait des croquettes et un coussin plus confortable que celui de ta mère pour caler son dos quand elle a mal. Le chien a pris un boulard. Sur 3 semaines ensuite, il a refusé de renifler l'anus de quelque autre chien que ce soit. Et ça m'a fait penser à ce pote qui a arrêté les soirées échangistes et s'est mis à réciter du Rimbaud pour séduire des sapiosexuels trop sensibles. Et il y a cet article sur le site du magazine Capital consacré au luxe capping qui dit que 72% des 18-24 ans quand même en ont déjà fait. Ouais. Et les établissements maintenant s'adaptent. C'est-à-dire que le Meurice, par exemple, c'est un palace à Paris. Hein. Ils ont un resto qui fait l'œuf maillot à 90 euros. Hein, la poule a pondu cet œuf dans de la soie disposée sur un sol en marbre rare. Le Meurice a des offres pour cette clientèle-là. C'est-à-dire qu'il les récupère en vrac après 9 nuits à dormir dans le caniveau. Il les passe au Karcher. Elles soient même Théo et Cléa sont dans la suite premium à se dire ce soir c'est l'ascenseur social. Mais demain, ça va être le saut en parachute sans parachute. Il y a donc deux écoles du luxe capping. Ceux qui le font en début de séjour et ceux qui le font en fin de séjour. Moi, je serai de la team fin de séjour parce que je pense qu'il faut garder toujours le meilleur pour la fin. Je rappelle que j'interviens 15 minutes avant la fin de l'émission. Après, je pose la question, est-ce qu'on a envie, quand à 40 ou 50 ans, on se paye un spa, de partager le bain bouillonnant avec des jeunes dégueulasses qui suintent le sébum et qui ont porté leur putain de boxeur de bain sans interruption sur 4 jours sous leur jean de prolo? La réponse est non. L'avantage du luxe pour nous à France Inter, c'est qu'avant, il n'y avait pas de jeunes là-dedans, ni de cégétistes, ni d'intermittents du spectacle avec des dreadlocks qui se coincent dans le siphon de la piscine. Les mecs se font broyer, c'est horrible. Le reggae perd 1000 chanteurs par an avec ces conneries. On était dépaysés à Punta Cana, je voyais Daniel Morin au loin, bichonné par une professionnelle qui lui massait le crâne avec ses seins. Je l'entendais dire « Ah ça, on est mieux que dans cette équipe de pisse froid, la BO là !» Je mangeais du foie gras vegan, importé par l'hôtel de Punta Cana depuis le 11e arrondissement de Paris. La boucherie végétale, c'est plus bon sans le cochon. Et maintenant, même le luxe se démocratise. Alors Nagui, ouvrez-nous les portes de votre manoir et recueillez-nous, par pitié quoi.
Jamais, jamais.
Tanguy sur scène à Lille, au Sébastopol, ce sera le 11 février.
Dans le livre de Philippe Besson, surtout Giulio Cinquetti, énorme star des années 60, et ce rêve italien pour ce professeur qui d'ailleurs séduit sa propre famille. Il est charmant quand il parle italien d'une manière très facile, lorsqu'il fait l'interprète comme ça. Même ses propres filles le regardent avec « Waouh, papa !»
Mais oui, parce que tout d'un coup, leur père devient celui qui parle dans une autre langue, une langue qu'elle ne maîtrise pas, qu'elle ne connaisse pas. Et il leur ouvre des portes, il leur montre des choses qu'elles ne peuvent pas voir. Donc oui, il prend une autre... Il devient une sorte de héros à ce moment-là pour ses filles. Ouais.
Philippe Besson, une pension en Italie, le nouveau Besson est sorti chez Julliard, un autre événement culturel, Leïla.
Quel est le point commun entre William Faulkner, Agatha Christie, Betty Boop ou encore Paul Claudel ?
Les sourcils.
Non.
Non ?
Non. D'après vous, on peut ajouter Thomas Mann aussi à cette liste.
Tout,
plus précisément, Agatha Christie, c'est pour l'affaire Protéroé et Faulkner, c'est pour Tandis que j'agonise.
Ils ont tous eu une adaptation ?
Non. Pas encore.
C'est la liste des livres lus par une personnalité.
Non. Ah. C'est lié avec le 1er janvier et la nouvelle année.
Ils sont tous nés le 1er janvier ?
Non plus.
C'est les cadeaux les plus offerts cette année ?
Non plus. Ah, non.
C'est les livres les plus achetés ?
Non plus.
Ça rapporte quelque
chose. Chaque 1er janvier.
C'est tombé dans les droits.
Domaine public, absolument. Absolument. Alors attention, il y a des distinctions à faire parce qu'en France, vous le savez, c'est 70 ans après la mort de l'auteur. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, c'est 95 ans après la sortie du livre. Ce qui fait qu'une œuvre qui peut être libre de droit aux États-Unis peut être encore protégée en France, et vice-versa. Donc, Faulkner, c'est pour ce titre « Tandis que j'agonise ». Agatha Christie, c'est pour l'une des premières apparitions de Miss Marple avec l'affaire Protheroe. Tandis que Paul Claudel et Thomas Mann, là, du côté français, c'est par rapport à la date de disparition. Parce que si on fait le calcul, Faulkner est mort en 62. Donc, en France, il faudra attendre 2033 pour pouvoir utiliser ses œuvres. Donc, il faut toujours un peu jongler comme ça entre les différents agendas. Question pas forcément drôle, mais en cas de disparition, Philippe Besson...
Vous mourrez quand, déjà?
Est-ce qu'on a une
J'ai
date
pas pu faire le calcul.
Voilà.
Je peux pas faire le calcul. Mais en cas de disparition, qui est responsable? Qui est, quelle consigne on donne à son ayant droit? Comment on fait pour la gestion d'une œuvre? Parce qu'on parle du 25e roman. Certains ont déjà été adaptés, d'autres vivants. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Est-ce qu'on se pose ces questions?
On fait confiance à la personne à qui on lègue ça, donc en général l'être aimé, donc on se dit il saura faire pour moi, ou elle saura faire pour moi, donc moi je ne veux pas penser à tout ça.
On peut donner des consignes beaucoup plus précises,
je ne veux pas
de ça ou de ça.
Alors oui, on pourrait, alors ce que je demanderais, c'est qu'on ne publie pas les textes qui sont dans le tiroir.
D'accord.
Je n'ai pas envie de publication posthume, ça je trouve ça un peu terrible, donc ça j'ai pas envie de ça.
Bah, vider le tiroir déjà, pourquoi vous le gardez?
C'est bien d'avoir des choses dans le tiroir en même temps, c'est rassurant. Il n'y aura pas de publication posthume, mais en revanche, on fait ce qu'on veut, et puis, de toute façon je serai pas là pour le voir. Hein, donc.
Oui, non, mais on peut aussi donner quelques consignes, cette œuvre-là en particulier, je ne veux pas qu'elle soit adaptée parce qu'elle m'est trop personnelle.
Non, parce que justement je trouve que les œuvres, il faut les laisser vivre par elles-mêmes. Moi c'est pour ça que j'aime tellement quand mes livres sont adapté au cinéma, joué au théâtre ou traduit à l'étranger, c'est que tout d'un coup, ça reste des objets vivants, ça reste des objets protéiformes qui deviennent autre chose. Oui. Et donc, moi, qu'on en fasse ce qu'on en veut, ça me plaît beaucoup. Je me sens pas propriétaire de mes textes. Justement, quand vous les publiez, vous en êtes techniquement dépossédé.
Oui.
Et d'ailleurs, c'est ça qui est fou, c'est quand vous avez des lecteurs ou des lectrices qui viennent vers vous, ils vous parlent de votre livre, mais ils ne vous parlent pas de votre livre, ils parlent d'eux. J'ai souvent raconté ça, mais quand j'ai écrit un livre il y a très longtemps qui s'appelle L'arrière-saison, et qu'un personnage principal s'appelle Louise, c'est un livre qui a beaucoup marqué les gens, et le nombre de lectrices qui arrivent devant moi et qui me disent, alors je voulais vous dire,
c'est moi.
Louise, c'est moi. Je ne crois pas parce qu'on ne se connaissait pas il y a 5 minutes, mais je vous fais confiance, je suis sûr que c'est vrai. Et donc c'est ça qui m'intéresse. Donc oui, il faut que les livres vivent leur vie et ils la vivent très bien sans moi.
La liberté du livre, absolument. Oui. On va au Japon à présent, dans une librairie à Tokyo, dans le quartier de Ginza, qui est un quartier très huppé. Je vous ai déjà parlé des locations d'espace dans les librairies pour proposer sa propre sélection. Là, ça va plus loin dans cette librairie, d'après vous? De quoi s'agit-il? Comment est-ce que le...
On peut dormir, on peut s'allonger pour lire.
Non.
Ça a un rapport avec le temps?
Non plus.
Okay.
Ça va plus loin que cette location d'espace.
Écrire.
On peut manger un livre.
Non, c'est vrai, ça serait pas
on
mal.
On peut faire l'amour au milieu des livres.
Tanguy, bonne idée.
Mais non, mais parce que ça aurait pu être.
On peut acheter quelque chose.
On t'appelle le marque-page.
On peut acheter. Oui, on peut acheter quelque chose dans une librairie. Mais en effet, c'est intéressant.
Acheter un temps avec l'auteur. Non.
On peut passer du temps avec l'auteur, mais surtout pour une raison particulière.
Lui faire l'amour.
toujours pas.
Ça fait deux fois. Ça va se voir.
Tu réfléchis tout haut.
On est dans une entreprise un peu minimaliste.
On peut posséder.
Non, ce sont des livres d'occasion.
Non plus.
Ce sont des petits livres.
Non plus.
Ce sont des grands livres.
Minimaliste. C'est un lien avec la notion de choix.
Il y a un seul livre.
Un seul livre, bravo. En fait, la patronne de la librairie s'est rendue compte que quand elle organisait des événements, les gens qui venaient acheter le livre ou d'autres livres venaient surtout pour discuter avec l'auteur, pour créer un moment, une rencontre, ou avec son libraire. Et elle s'est dit, allons, justement, cultivons ce choix de la rareté avec un livre unique. C'est une forme de minimalisme qui va l'emporter. Terminer les rayonnages fournis, où en fait les gens sont un peu perturbés parce qu'ils ne savent pas s'ils font le bon choix. Ils repartent et ils se disent, j'en ai acheté 4, et puis là, ça va pas. Finalement, la proposition unique est de plus en plus séduisante, parce qu'en plus, on peut entretenir un dialogue.
Super, c'est super triste, non?
Non, justement, ça peut être une... Par ailleurs, il y a d'autres librairies qui existent, c'est l'avantage.
Je trouve qu'ici, il devrait y avoir un humoriste.
Donc, dans cette librairie, en tout cas, ce qu'on vient chercher, c'est une sélection. C'est une sélection qu'on vient chercher. C'est un temps aussi qu'on va passer. Donc, le libraire va avoir un dialogue exclusif avec vous sur ce livre-là. Est-ce que vous pourriez imaginer, comme ça, pendant une semaine, d'être dans une... pas une librairie, mais en tout cas, un endroit, une sorte d'événement, événementiel, pour rencontrer. Ça fait un peu Sophie Cal.
Ce soir, il est à Bordeaux déjà.
Voilà. Absolument. Ce soir, je suis à Bordeaux, la librairie Mola.
Voilà, la fameuse. Ouais. Pour rencontrer des gens comme ça, un peu en tête à tête. Pour rendre, je sais pas, cette intimité-là encore plus grande.
Oui, moi ça m'irait très bien, parce que précisément, le moment de la rencontre avec le lecteur, c'est un moment ultra intime, en fait. Mmh. C'est ça qui est très frappant, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, ce qui me frappe toujours, c'est que quand les gens arrivent, et ils vous disent tout de suite pourquoi ils ont été touchés par tel livre, donc... On est toujours sur un registre sensible, sentimental. Ils ne sont pas en train de faire une analyse littéraire. Sauf que si vous leur donnez plus de temps, ils le prennent. Oui. Il y a un moment, il y a des gens qui ont envie justement que le moment dure. Il y a des gens qui disent, je peux vous attendre à la sortie parce que je voudrais vous raconter quelque chose. Il y a des gens comme ça qui m'ont raconté des histoires incroyablement intimes. Ben, je l'avais fait par exemple sur un livre qui s'appelle « Ceci n'est pas un fait divers ». Quelqu'un qui m'a attendu après à la sortie, qui a fini par me raconter son histoire et vous êtes devant et qui vous dit, je voudrais que vous soyez le dépositaire de cette histoire-là. Donc c'est une responsabilité qu'on vous octroie. Mais en même temps, il vous livre quelque chose d'incroyablement intime. Alors, c'est parfois très déroutant et très déstabilisant parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Mais c'est aussi très beau. On fait ce métier-là aussi pour ça, franchement. Mmh.
Ce soir, donc, en fin d'après-midi à 18h, vous serez à la librairie Mola à Bordeaux. Le 20 janvier à 19h30, à la librairie Dédicace, la bien nommée, à Nanterre. Le 24 janvier à 10h, à l'espace culturel Leclerc de Barbezieux. Et le 24 janvier, toujours, mais à 15h30 cette fois, à Angoulême, à la librairie Cosmopolite. Très chargé ce planning.
Très beau libraire.
Avec la sortie également du Grand Prix des lecteurs, sélection de la Grand Prix des lecteurs. Donc, là, vous parlez de Mon Fils chez Pocket. Ce livre est édité. Vous faites partie de la 12e édition de 13 à table.
Ah oui, très important.
Ces auteurs qui se réunissent bénévolement pour les Restos du Cœur, c'est
absolument
ça?
Absolument. Tout le monde est bénévole. C'est-à-dire les auteurs, bien sûr, les nouvelles que nous écrivons, on le fait bénévolement, mais les libraires sont bénévoles, l'imprimeur est bénévole. Personne n'est payé. La totalité du chiffre d'affaires, des revenus liés au livre sont reversés au Resto du Cœur.
Et toujours dans Les Échos, toujours sur le site des Échos, avec
absolument, il y a des horreurs, comme ça, de temps en temps, ça m'amuse beaucoup.
Pour égratigner des célébrités.
J'égratine les célébrités, oui, je dis comme ça. Bah, c'est facile. Hein, c'est...
Comme il n'y a aucune célébrité autour de cette table, personne n'est visé, en l'occurrence, par cette procédure. Des excuses à présenter.
Bah, commence-toi, d'ailleurs. désolé pour Philippe Besson, qui nous avait demandé de ne pas divulguer le secret de famille dont on parle.
On a tenu
livre. Oui, bravo. Italien. Alors, on a joué le jeu, on a tenu le jeu. Mais jusqu'à maintenant, il reste une minute.
Et le rire de Daniel Morin va balancer.
Nickel, on flippe, hein. Eh ouais, je pourrais tout balancer. Bon, je vais juste donner quelques indices. Là, alors.
Colonel Moutarde, dans la cuisine.
C'est Mademoiselle Rose qui a.
Il y aurait Philippe Pétain en robe rouge qui danserait sur du Patrick Sébastien. Voilà. C'est chaud, c'est intime. C'est un choix, ça fait mal au reste de la famille. Mais bon, j'en dis pas plus, je dirai rien sur l'arrivée à la fin du livre de Jordan Bardella. Bon, ouais. Achetez-le, lisez-le. Désolé pour Madame Santini qui a découvert ce matin le secret de son mari à petit pénis, surnommé Juju la rafale. Alors, à savoir qu'il ne veut plus entendre parler de Brigitte. Terminé, on ne parle plus de Brigitte. Il est prêt à avoir recours à Donald Trump. Alors, dites à Brigitte de se méfier. Il est capable de tout. Le Corse micro équipé. Désolé, enfin, pour Lisa, Emma, Julien, Olivier, Tanguy, tout le reste de la bande originale. Hein. Il y a un très lourd secret de famille, les amis. Voilà, donc il fallait que je le dise. Nagui, ne fuis pas tes responsabilités. Voilà, je balance tout. Leïla est en réalité le frère de Nagui, avec qui il s'entend bien mieux depuis qu'ils font chant de rapport. Ouais, Leïla s'appelle en fait Jean-Claude. Voilà, et ça fait un bien fou de partager. Ça fait un bien fou.
Merci Daniel, merci Philippe Besson.
Oui, merci
de voir.
Infiniment.
Et on n'a rien dit, hein.
Rien. Voilà. Mais il reste 30 secondes, tu veux dire un truc?
Dans la cuisine.
Avec
Colonel Moutarde, tout ça, c'est pas ça.
Oui, ça se passe dans la cuisine.
Voilà. C'est vrai. Ça se passe dans la cuisine. Et c'est chaud.
Et c'est très chaud.
C'est au soleil et c'est très chaud.
Très
une pension en Italie chez Julliard Le Nouveau. Philippe Besson, passé un très bon week-end. Lundi, on se retrouve avec Ophélia Kolb et Fred Testo. Il s'agira d'un polar. Bon week-end sur Inter. Ciao.